En sol majeur, vous propose cette rediffusion.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un mètre cube d'artiste qui s'appelle Ovnatan Avedikian ? De la terre, de l'Odyssée, mais aussi du Tex Avery, des tablées arméniennes et du théâtre total. Bref, l'artiste a du corps. Acteur révélé par Irina Brooke, il sculpte sa langue et sa peau au contact de Roger Plon et Roland Dubillard. Mais c'est en metteur en scène qu'il exulte et rassemble ce qu'il y a de fragmenté en lui. Et oui, en sol majeur, n'oublie pas ce détail de l'histoire. Ovnatan Avedikian, arménien de mémoire, est l'enfant d'un peuple dispersé qui a précisément son mot à dire et sur le théâtre et sur le monde. Rediffusion de cet entretien réalisé peu de temps avant le Festival d'Avignon 2017, où il présentait « Baie des anges » de Serge Valetti et « Esperanza » d'Aziz Chouaki, qu'il reprend dans un exceptionnel seul en scène au Lavoir moderne parisien à la rentrée à partir du 12 septembre, et on s'en réjouit en sol majeur. Bonjour Ovnatan Avedikian.
Bonjour.
Merci de lâcher vos répétitions le temps de cet en sol majeur. Votre humeur du jour, là, à ce moment-là où je vous parle ?
J'ai beaucoup aimé dans la présentation « dispersée ». Donc c'est mon humeur du jour, elle est dispersée.
Alors avant de s'engouffrer dans la chaleur d'Avignon pour y découvrir votre travail, un détail, un autre de votre histoire, même si vous ne jouez pas du tout cette carte-là, je le sais. Est-ce qu'on peut commencer par dire que vous êtes un fils de ?
Oh bah oui, moi je... Enfin, fils de mon père déjà, avant d'être fils d'un artiste. Et oui, nous on a aucun... problème avec ça. Bon, il se trouve que mon père n'est pas une immense vedette internationale, donc c'est profondément un artiste. Profondément. C'est quelqu'un de assez rare, mon père.
Pourquoi ?
Parce que c'est quelqu'un qui combine l'intellect, le corps, les nerfs, l'ambition, et qui part d'un endroit où peu d'artistes ici partent, c'est-à-dire une rage qui vient de loin, parce que mon grand-père aurait dû être un artiste, son père, et l'histoire a fait que ça ne s'est pas passé. Il s'est retrouvé dans les usines, il a changé 3 fois de pays, et il n'a pas pu vivre sa vie d'artiste. Il devait être chanteur d'opéra, d'opérette, sans doute comédien, et il s'est retrouvé dans les usines. Et donc mon père est devenu artiste pour son père, pour lui, pour son père. Et donc ça part d'un endroit très puissant. Et je connais d'autres artistes qui partent d'endroits similaires, et je peux vous dire que c'est des énergies intarissables.
Alors c'est pas une grande vedette comme vous dites, mais quand même Serge Avedikian, c'est un de nos grands réalisateurs français, comédien également, dont l'imaginaire est né en Arménie soviétique et qui nous racontait en sol majeur son enfance il y a peu.
Je dois dire que j'ai été, comme tout le monde, mais peut-être un peu plus, marqué par le cinéma muet, par le cinéma noir et blanc, parce que les Russes, lors de la Deuxième Guerre mondiale, avaient pillé la Cinémathèque de Berlin, lorsqu'ils ont occupé Berlin, et diffusé à longueur de journée à la télévision russe tous les Charlots muets, ce qui fait que j'ai été gavé par Keaton, Chaplin et ça, alors que les gens croient que quand on vit en URSS, quand on vivait en URSS à l'époque, on voyait pas, au contraire, on voyait toutes ces choses-là. Et j'ai été très très marqué par le personnage, non pas seulement de Chaplin, mais tous les acteurs du muet, le découpage du muet, et puis ce côté un peu pas réaliste.
Gold Rush, Alaska was the hope and dream of wayworn men, the ruthless siren of the far north, beckoning thousands to her icy bosom. Over this pass, men faced untold misery and hardship. Many lost their lives, some fell exhausted the wayside, others lost courage and turned back, but the brave went on.
Ascom, histoire de famille.
Alors, papa, regardant la ruée vers l'or de Chaplin, ça c'est une histoire de famille ?
Bon, j'imagine qu'on n'est pas les seuls, mais je regardais surtout avec mon grand-père, en fait. J'ai l'impression que c'était notre histoire, quoi. C'est-à-dire, j'ai tellement regardé ça avec mon grand-père que j'avais l'impression qu'il jouait dans les films. Mon grand-père, apparemment, il exerçait vaguement le métier de plombier dans les usines, je sais pas, de maintenance des machines. Voilà. Et donc, il avait des caisses à outils très archaïque, en métal, rouillé. Et il me donnait toujours, pour m'amuser, une horloge à démonter le dimanche après-midi. Et pour moi, j'étais dans les temps modernes. Je regardais Chaplin avec ses écrous rentrer dans les grandes roues en métallique. Et pour moi, ben, c'est ce que je revivais avec mon grand-père. Enfin, c'est très fort, très émotionnel. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls, c'est international. C'est... Mmh.
Vous pensez être né dans une famille pas réaliste, Nathan Avedikian ?
Je ne saurais pas répondre.
Est-ce que la famille, c'était le théâtre déjà ? Le théâtre commence par là.
Oui, oui. Il se trouve que ma famille est une très grande famille parce que mes grands-parents paternels et maternels, quand ils se sont rencontrés, sont devenus amis. C'est très rare. Et donc, il y a eu un mélange parce que d'un côté, ils étaient médecins, de l'autre côté, ils étaient ouvriers. Ça a formé une immense famille très complémentaire. Les gens chantaient, buvaient, montaient sur la table. Enfin, c'est très, très impressionnant.
Puisqu'on est quasiment à table, est-ce que je peux vous faire écouter quelque chose ? Deux derniers mezzé et puis une énième vodka. Il est 16h à la tablée familiale, c'est ça ?
Ouais, à peu près. Ouais. Voilà.
Vous avez dansé là-dessus ?
Oui, alors moi j'étais très timide par rapport à tout ça parce que c'est encore plus compliqué. Parce que mon père, mes parents m'ont élevé à Paris, dans le centre, dans un milieu artistique, culturel. Donc il y avait ces deux mondes. Il y avait le monde du dimanche après-midi avec ma famille et puis le monde... La semaine avec des artistes en tout genre. Mon père jouait dans les pièces de Claude Régis, Jacques Lassalle, Patrice Chéreau. Donc, à la maison, défilait tout un tas d'artistes. Je me retrouvais sur des plateaux en tournée quand j'étais gamin. J'étais dans les coulisses des paravents de Genève quand Chéreau l'a monté. Il y avait 39 comédiens quand même sur le plateau du Théâtre des Amandiers. C'est comme ça que il y avait des amis de mon père, dont Amou Graya, par exemple, qui était un de ses meilleurs amis. Et moi, je le regardais comme un oncle. Et après, c'est devenu un ami. Puis après, j'ai commencé à travailler avec lui. Puis après, c'est lui qui m'a présenté Aziz Chouaki, Jean-Louis Martinelli, des gens. Donc tout ça, c'est de la filiation. Et c'est pour ça que j'en reviens quand vous me demandiez si je suis un fils d'eux. Ben, je suis un fils d'eux, oui, au sens noble du terme. Mm-hmm. C'est-à-dire comme des saltimbanques.
Donc filiation artistique, donc famille théâtrale d'un côté et puis communauté arménienne de l'autre.
Oui, mais ça, c'est une problématique qui concerne plus celle de mes parents parce que. Mes parents, ils nous ont un peu éloignés de la communauté arménienne. Communauté au sens un peu péjoratif du terme. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas nous enfermer dans des cours, des danses traditionnelles. Tout ça. Mais je le regrette aujourd'hui. Par exemple, j'ai un problème, c'est que ma langue maternelle, c'est l'arménien. Et aujourd'hui, je ne la parle pas.
Comment c'est possible, ça ?
Parce qu'à l'âge de 5 ans, je suis rentré de l'école maternelle et j'ai hurlé sur mes parents en leur disant « Vous m'avez menti ». Les gens, ils parlent pas arménien, en fait. Ici, ils parlent français. Et donc, j'ai fait un déni. Et j'ai essayé d'éteindre cette langue en moi. Et aujourd'hui, je pense que je rêve, je pense en arménien. Je dois nager en arménien. Je dois cuisiner en arménien. Mais je ne parle pas en arménien. Alors, évidemment, je me débrouille un petit peu. Et puis, le peu que je me débrouille, ben, je le parle impeccablement.
Est-ce que ça veut dire que vous vous sentez fragmenté identitairement ?
Je crois pas parce que j'ai fait un travail suffisamment fort là-dessus pour pas avoir de problème d'identité. Voilà. J'ai la chance aussi d'avoir une famille qui démystifie les choses. Alors ça, c'est peut-être dû à l'esprit soviétique. Mais
qu'est-ce qu'ils ont démystifié, par exemple ?
Non, mais c'est-à-dire qu'il s'agit de résoudre dans ma famille. Il faut résoudre les problèmes. Donc, on ne reste pas avec des problèmes qui s'enquistent, qui pourrissent et qui donnent des complications. Donc on en parle. Donc c'est un peu étrange des fois, à table on parle de choses très étranges avec mes parents, de la sexualité des uns, de l'avenir des autres, de notre emploi du temps, tout est mis sur la table. Avec beaucoup de pudeur et beaucoup de tabous, mais c'est ça le paradoxe, sinon ça serait trop simple. Mais je veux dire, les choses sont mises à plat. Et on est, je viens d'une famille où le langage est, a une place très importante.
Alors tout ça a produit le comédien que vous êtes, Ovnatan Avedikian, parce que vous êtes d'abord un comédien. Et votre première école de théâtre, si je comprends bien, c'est votre famille. Et vous en avez fait un incroyable seul en scène, one-man show, intitulé Off Show. Ça a été créé au théâtre de Nice, hein, en France. Le principe de ce one-man show, comment vous le présenteriez ?
Alors c'est un spectacle, c'est Irina Brooke qui m'a convaincu qu'il fallait qu'on le fasse. Je lui ai dit que vraiment je pense que ça n'intéressait personne. Et elle m'a dit mais fais-moi confiance, fais-moi confiance, il faut que tu racontes toutes tes histoires. Ça part de ta famille, ça va jusqu'à ton mal de ventre, ça passe par les castings, ça retourne à la télé. C'est parce que j'ai fait de la télévision, des choses un peu ridicules. C'est un spectacle qu'on a joué une dizaine de fois, qui a vraiment bien marché. Mais quand les producteurs se sont intéressés à cet objet artistique, ils ont dit c'est inclassable, quoi. Je veux dire, ça, c'est pas un du one man show. C'est un objet, c'est un ovni. C'est pas Ovnatan, c'est ovni.
C'est joli ça. Est-ce que je peux vous demander de raconter façon off show comment, par exemple, votre famille, Ovnatan Avedikian, a réussi à fuir le génocide ?
Ben, je fais des grandes enjambées. Comme si je fuyais des armadas de Seljoukides. Je raconte comment mes arrière-grands-parents ont fui le fameux génocide arménien. Je mets au défi quiconque de me raconter l'histoire du génocide arménien. Et ils se sont retrouvés dans des pays d'Europe à faire des enfants. Donc mes grands-parents sont nés aux quatre coins de l'Europe. C'est pour ça que je dis que s'il y avait les droits du sol, nous on aurait toute l'Europe, quoi. Et donc ils ont réussi à faire des enfants, donc c'est-à-dire qu'ils ont fait l'amour, quoi. Donc je me disais, c'est dingue de fuir, d'avoir un couteau dans le ventre, de continuer de réussir à faire des enfants dans des trains, dans des bouges. Puis en même temps, ils étaient décapités, donc ils couraient sans tête, et ils arrivaient à faire des enfants en courant sans tête et en traversant les frontières. Imaginez. C'est-à-dire que le problème, c'est que j'ai une famille qui a couru sur tout un siècle. Ils ont réussi à avoir une ascension sociale en France, c'est incroyable. Et puis je suis né, puis ils ont dit, bon, bah maintenant, c'est fini. Tu fais comme si c'était rien passé et tu arrêtes de courir. Vous imaginez, c'est comme, vous savez, j'ai regardé Alien il n'y a pas longtemps, je voyais le ventre qui allait exploser parce qu'il y avait des petits aliens dans le ventre de, je sais pas quoi, de Sigourney Weaver. Bien, c'est un peu cette sensation-là que j'ai, quoi. C'est-à-dire, c'est toute cette histoire, elle est dans mon ventre et toutes ces générations d'avant qui ont couru, et moi on me demande de pas courir. C'est très dur de marcher maintenant.
Parce que vous avez des fulgurances au niveau du corps, mais aussi au niveau du langage. Ovnatan Avedikian, vous êtes aujourd'hui un fils d'Européen sans tête.
Un peu, ouais. Ouais.
Alors sur scène, je vais quand même donner une image. Il y a un lit à gauche, une table au milieu, une grande penderie à droite avec beaucoup de fringues, de chemises, etc. Vous êtes très sapé finalement. Puis vous, comédien, en slip, en jean, en impair, parfois un sac comme casque sur la tête, avec des boots aussi autour du cou. Bref, c'est un peu du Tex Avery, votre manière de gérer le corps dans la narration. Vous diriez ça ? Est-ce que c'est une inspiration d'ailleurs ?
Non mais c'est un vrai problème, hein. C'est-à-dire que j'ai grandi avec Chaplin et Tex Avery. Alors, j'ai cette... Et puis je suis percussionniste aussi, donc j'ai un problème de rythmique. C'est-à-dire que mon but à atteindre, il n'est pas humain, physiquement. Et généralement, ça m'ennuie quand je vais au théâtre. Il y a un problème de corps en France.
C'est quoi le problème de corps en France ?
Bah, c'est très fatigué. Les gens sont très fatigués. Ils sont épuisés. Ils arrivent sur scène, ils sont épuisés.
Mais alors, quelles sont vos inspirations pour travailler ce corps ?
Bah, déjà, je suis fasciné par les animaux, par les arts martiaux. C'est-à-dire, j'aime beaucoup tirer vers les choses improbables. Quand je m'entraîne, j'imagine toujours les oiseaux en train de voler. Ou la force des poissons, l'énergie, enfin je veux dire, l'énergie. Et en France, les gens sont assez fatigués quand même. Voilà.
Alors c'est ce que vous racontez, là je reviens à la narration d'Off Show, parce que c'est une manière quand même de vous découvrir, Ovnatan. Vous racontez que vous êtes à un moment de votre vie complètement, officiellement paumé, quoi. Vous l'avez été scolairement, hein. Vous êtes sur une voie de garage, ça a été votre premier drame. Et puis vous rencontrez cette grande metteur en scène, Irina Brook. Et là, la question que vous posez, c'est comment un comédien paumé peut séduire Irina Brook ? Réponse.
Un jour, j'ai eu la chance de rencontrer Irina Brook. Alors, je ne savais pas trop quoi lui dire. Je lui ai dit, elles sont bien vos baskets. Elle avait des je ne sais pas quoi. Bref. Et en fait, Irina Brook, je dis, la manière dont je raconte la chose dans le off-show, c'est qu'elle prend que des gens totalement paumés. Mais il ne faut pas arriver devant elle et dire, je suis complètement paumé, Irina Brook, parce qu'elle le voit, ça ne l'intéresse pas. Non, il faut être vraiment paumé, c'est-à-dire qu'on ne montre pas qu'on est paumé. Donc on dit salut, on essaie de la draguer un peu, salut Irina, elle dit ah il a l'air un peu paumé le mec là, et elle dit tu voudrais pas faire des essais, et donc on fait l'essai, elle dit ah bah il est nul, il est complètement paumé, il est nul, c'est parfait, donc elle dit je te prends, viens je vais te présenter les autres nulards, donc elle vous présente une dizaine de nulards avec qui elle travaille, mais elle aimerait pas que je raconte ça parce que sur scène évidemment c'est très dans la dérision. Bon, de manière générale, les acteurs sont assez perdus. C'est pour ça que je l'ai jamais très bien vécu, cette histoire d'acteur, parce que j'avais un souci avec mes partenaires, beaucoup, en fait. Et puis, je me suis rendu compte un jour que le problème, il venait pas de mes partenaires, mais il venait de moi, en fait.
Moralité, vous n'êtes pas un acteur. Vous vous êtes découvert metteur en scène.
Mais je pense que c'est un métier qui n'existe pas non plus. Si vous voulez, moi, je ne crois pas à la société moderne. Je ne crois pas au système, t'es acteur, t'es metteur en scène, t'es ceci, t'es cela, t'es intermittent. Vous imaginez, mon statut, c'est intermittent du spectacle, ça veut dire que je suis chômeur. Alors, mon statut social, c'est chômeur, et encore, c'est parce que j'ai du boulot. Parce que ceux qui bossent pas 507 heures, ils sont pas intermittents, donc ils sont rien.
Oui, mais ça c'est le système, effectivement.
Ok, mais ce que je voudrais dire, c'est que tout ça n'a pas de sens. Moi, je crois à faire du feu, se réunir en cercle, raconter les histoires de ce qu'on a vécu aujourd'hui, ce qu'on vivra demain, écouter les anciens, réparer le toit de sa maison, réparer une voiture, construire une chemise, monter des chaussures en trépointe. Moi, je crois à l'artisanat du monde.
Mais alors pourquoi vous faites du théâtre ?
Mais parce que c'est ça. C'est dans une caverne, le type, il se gratte, ça fait rire tout le monde, finalement, il en fait un spectacle. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais je veux dire, je crois à la simplicité.
Alors, la suite, c'est votre culot, peut-être, de metteur en scène, Nathan Avedikian, qu'on découvrira tout à l'heure avec Esperanza et Baie des Anges au Festival d'Avignon cet été. Mais d'abord, un petit peu de Tribe Called Quest. Pourquoi du hip-hop américain dans votre programme en sol majeur ?
Ça fait partie de la musique de mon cœur, de quand j'ai découvert le hip-hop quand j'avais 12 ans, je crois, 11 ans. Ça m'a jamais lâché. Black hair and your fat ass thighs. Street poetry is my everyday. But yo, I gotta stop when you drop my weight. If I was working at the club, you would not pay. Ayo, my man Fife Diggy, he got something to say.
I like him brown, yellow, Puerto Rican, or Haitian. Name is Fife Dork from the Zulu Nation. Told you in the jam that we could get down. Now let's knock the boots like the group H-Town. You got BBD all on your bedroom wall. But I'm above the rim and this is how I ball. A gritty little something on the New York street. This is how I represent over this here beat. Talking about you.
Yo, I took you out. But sex was on my mind for the whole damn route. My mind was in a frenzy in a horny state. But I couldn't drop rhymes cause you couldn't relate.
Relax yourself, girl, be set.
You couldn't relate.
Relax yourself, girl, be set.
You couldn't relate.
Relax yourself, girl, be set.
Relax yourself, girl, be set.
Relax yourself, girl, be set.
Relax yourself, girl, be set. Stretch out your legs, let me make it ball. Drive you insane, drive you up the wall. Staring at your dome piece, very strong. Stronger than pride, stronger than Teflon. Take it on the Ave and you buy me links. Now I want a pound of Poontang until it stinks. You could be my mama and I'll be your boy.
I read you're not a rude boy, never am I coy. You could be a shorty in my ill convoy. Not to come across as a thug or a hood. What? But hun, you got the goods like Madeline Wood. By the way, my name's Malik, the 5 foot freak. They say we get together by the end of the week. She simply said no, label me a hoe. I said, how you figure? My friends tell me so. I hate when silly groupies wanna run the yap. Word to God, hun, I don't get down like that.
I'll have you weak in the knees that you can hardly speak. Or we could do like Uncle Ella swinging up in my Jeep. Keep
it on the down, yo, we keep it discreet. See, I'm not the type of kid to have my biz in the streets.
If my mom don't approve, then I'll just be low. Let me save the little man from inside the boat. Let me hit it from the back, girl, I won't catch a hernia. Bust off on your couch, now you got Siemens furniture.
Shy, he fight for the extra P. Stacey Beetle, PJ, and my man LG. They know the ass track is really so on ice. The character is of man, never ever a mice. Shorty, let me tell you about my only vice. It has to do with lots of loving, and it ain't nothing nice.
Relax yourself, girl, be set.
It ain't nothing nice.
Relax yourself, girl, be set.
It ain't nothing nice.
Relax yourself, girl, be set. 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 Relax yourself, girl, be set.
Sa groove façon A Tribe Called Quest, c'est normal, c'est l'ensemble majeur Dovnathan Avedikian, qui habite avec son corps de comédien et metteur en scène extrême sur un radeau de migrants théâtral. Alors après avoir révélé son univers intime avec son off-show, eh bien Dovnathan faisant son show, on s'est dit que c'était déjà irrésistible. C'est vrai, car c'était revivre sur les planches de son drame familial, scolaire, arménien, théâtral, mais façon pied nickelé. C'était revivre le grand rire. Dovnathan Avedikian n'est pas un comédien de conservatoire, c'est même un inadapté de toutes les écoles, un surdoué de l'état sauvage, pas loin de l'état de grâce. Après avoir travaillé aux côtés d'Irina Brooke au Théâtre de Nice, en France, il vole de ses propres ailes aujourd'hui. Avant de le découvrir à la rentrée au Lavoir moderne parisien, retrouvons-le en Avignon 2017 pour y planter les mots de deux auteurs contemporains qui n'ont rien de lisse d'ailleurs. Serge Valetti d'un côté, sur le statut de la fiction, et de l'autre Aziz Chouaki sur la langue des migrants. Alors Dovnathan, je sais bien que vous n'êtes pas très conservatoire, ni peut-être même très répertoire, mais quand même, deux auteurs contemporains, est-ce que c'est pas deux fois plus de risques ?
Ah, mais pour moi c'est une évidence de travailler avec des auteurs contemporains.
Alors, on va commencer avec Esperanza, que RFI d'ailleurs suit depuis le début, depuis Ça va le monde, jusqu'à votre création au Théâtre de Nice en février, et puis en Avignon cet été à partir du 6 juillet. Alors, c'est une pièce où sur scène, dans votre mise en scène, il fait noir, avec un faisceau de lumière sur un amas de corps, agrippé sur un radeau de fortune.
Enfin, on voit presque plus la côte. C'est le plus beau jour de ma vie.
Rouf. Allez, adios muchacho de pays de merde.
Eh, je viens du Niger, les gars. Même muchacho.
Bye bye, Africa de muchacho. Adios pour toujours.
Moi, dès qu'on arrive, je vends un rein. Ouais. Les gars, j'ai l'adresse et tout. 5000 euros. On peut vivre avec un rein? Moi, je dis ça, je sais pas, moi.
Et tu vis bien avec un cerveau.
Ouais, mais les reins... Je veux dire, il y en a deux, quoi.
Et les couilles, pareil.
Mes empreintes digitales, comme ça, je te jure. Faire à repasser et mes doigts dessus. Schlingage de brochette, mon frère. S'ils me chopent, les gardes-côtes peuvent pas me refouler. Eh, regarde, tout lisse, peau de chatte.
Eh, hey, moi, le choix, c'était kamikaze ou haraga. J'ai fait pile aux faces, c'est tombé haraga.
Kiss Kof. Brûle mes papiers, brûle la mer, brûle la vie. Adios, muchacho.
Alors, Rachid, ça capte sa grand-mère?
Non, vous arrêtez pas de frétiller, surtout toi. Arrête. Tu dis que le GPS,
c'est un rafio pour 20 et on est 32. Alors obligé, on chicote. On n'est pas des sardines, quoi.
Et lui, là, avec sa chaise roulante, tu bouffes toute la place.
Ça, c'est ma chaise roulante. Le premier qui la touche, je lui chie le cul.
D comme... d'amener de la terre.
Un petit clin d'œil comme ça à Frantz Fanon avec cette question, Dovnathan Avedikian. C'est qui ces damnés de la mer qui se retrouvent sur l'Esperanza d'Aziz Chouaki?
C'est des haragas, c'est ce qu'on appelle des brûleurs. Ce sont des gens qui brûlent leurs empreintes digitales, qui brûlent leurs papiers, qui brûlent leur vie, quoi, qui brûlent la mer. Ils disent.
Alors il y a un ingénieur, parce que c'est intéressant de savoir l'identité,
oui, sûr,
justement de ces migrants.
Bien sûr, il y a un ingénieur, un musicien, un poète.
Un peintre.
Il y a une peintre. Il y a un taximan, taxieur, comme il dit. Non, ce que j'aime beaucoup, c'est que cet auteur, Aziz Chouaki, il arrive à parler de l'humanité à travers 8 personnages. Mais ce qui est fort, c'est que c'est pas une pièce sur les migrants, c'est les migrants qui regardent le monde. C'est pas une parole sur eux, c'est leur parole à eux. Et l'auteur a la légitimité de pouvoir orienter son écriture vers ce biais-là, parce qu'il est lui-même issu d'une immigration assez violente. Il a dû quitter son pays de façon assez rocambolesque, manifestement.
Dans les années 90, lors de la décennie noire en Algérie.
Voilà. Il dit « Je viens d'un pays qui s'appelle 200 000 morts ». Voilà. Bah, et on pourra parler de l'écriture, mais c'est l'humour des pauvres. Ça ne fait pas beaucoup rire les riches.
On ça, y reviendra sur ce rire parce que c'est intéressant. En tout cas, il y a un casting qui annonce la couleur de ce drame du 21e siècle, pensé par Chouaki. Donc ce sont des brûleurs de frontières qui sont les diplômés d'aujourd'hui. Et puis on y découvre aussi des salauds qui peuvent tenir debout sur leurs jambes, comme des handicapés. Vous, votre casting de comédien, Nathan, comment vous l'avez voulu ce casting?
Alors ce projet est très singulier. Aziz Chouaki m'a donné ce texte il y a 7 ans à peu près. Et quand je l'ai eu en main, j'ai tout de suite voulu le monter. Et je me suis retrouvé confronté à une problématique, c'est qu'il y a 8 personnes sur le plateau. Et un jour, grâce à Irina Brook, elle m'a donné une carte blanche. Ben, j'ai choisi cette pièce. Et seulement, la masse salariale faisait que je ne pouvais pas non plus me permettre de construire un décor ou quoi que ce soit. Et puis je trouvais ça ridicule de construire un décor. Et puis je trouvais ça ridicule aussi de m'enfermer dans une salle de répétition avec 8 acteurs, intermittents justement. Pourquoi pas, il y a des gens qui le font. Mais moi, je ne sais pas, dans mon estomac, il y avait quelque chose qui me disait il faut que tu secoues le bastingage justement et que tu trouves une manière de créer ce spectacle qui est ailleurs, dans l'inattendu. Donc je me suis tourné vers la maison d'arrêt de Nice, je suis allé voir le SPIP, Service Probation et Insertion, ce qui s'occupe de la culture dans les prisons. Ils m'ont accueilli, ils m'ont dit, ça fait 20 ans qu'on attend qu'il y ait des gens qui viennent nous voir, surtout de la part du théâtre qui se trouve juste à côté. Alors, c'est là le grand débat, c'est-à-dire que il y a des gens tout de suite qui m'ont dit, mais le théâtre n'a rien à faire en prison. Et moi j'ai dit, mais le théâtre a toute sa place en prison. Et donc j'ai inscrit le spectacle dans le sud, à Nice, qui est une ville qui traverse une période particulièrement noire, avec la migration, aux portes de Nice et aux frontières de Menton et tout ça, sont amassées une quantité de Tchadiens, d'Érythréens, qui sont dans une détresse absolue.
Et d'ailleurs, votre spectacle, au moment de la création, a été la cible de générations identitaires.
Oui, manifestement, oui. Bon, bah écoutez, c'est...
Mais c'est pas anodin de monter un tel spectacle dans une France qui, aujourd'hui,
non,
affiche un Front National à 30%.
Bien sûr, bien sûr. Mais... Après, les journalistes sont venus me voir et m'ont demandé qu'est-ce que vous pensez du Front National. C'est pas le Front National, c'est une génération identitaire. Il se trouve qu'ils ont arraché les affiches de Esperanza, de mon spectacle. Voilà, c'est tout. Si je commence à dire pourquoi le Front National me plaît pas, je vais commencer à expliquer pourquoi le Parti Socialiste me plaît pas non plus et pourquoi les Républicains ne plaisent pas non plus. Moi, je suis pas du genre à ne pas parler avec des gens qui votent Front National.
Mais est-ce que c'est un geste politique, cette pièce?
Ah, bah bien sûr, c'est un manifeste. Mais ça incrimine tout le monde. C'est comme Céline. Esperanza, c'est une diatribe sur une société complètement à côté de ses pompes. Et ces types sur le bateau qui visent un Eldorado qui manifestement s'avère fictif, ils ont un humour terrible. Ils se dévorent entre eux et ils viennent dévorer les Européens quelque part, quoi. Oui. Dans ce qui est dit, c'est un humour. Il faut, justement, c'est la force de cet auteur. C'est pas pleurnichard.
En même temps, il y a des voix théâtrales justement qui s'élèvent un peu contre cette posture du rire sur le drame.
Mais ils peuvent pas, les gens de la bien-pensance. Les gens qui sont confortablement assis dans leur théâtre subventionné, ils ne bougent pas vers la précarité.
Alors,
c'est une réalité. Hein, quand
même. Une image quand même sur cet objet artistique que vous nous proposez, Nathan Avedikian, sur scène, une lumière fixe, aucun décor, excepté 2 caisses de bière, un drap, un pistolet, et puis le corps. Tout se joue dans ce corps qui est le décor même. C'est d'ailleurs la très belle idée de cette mise en scène. Vous avez conçu ce radeau comme une sorte de magma humain avec ses 8 brûleurs qui ne font qu'un. Et ce qui est intéressant, c'est que pour aboutir à ce tableau organique, on pense parfois à des tableaux du 17e. Je me suis surprise à penser à du Rubens en regardant,
oui, oui,
on a déjà dit aussi, votre, oui, mise en scène. Vous avez imposé un entraînement physique très intensif à vos comédiens.
Pour des acteurs français, oui.
Ils n'ont pas coupé du bois, mais pas loin quand même.
Ah oui, oui, non, mais moi, avec moi, on travaille beaucoup. Hein.
C'est quoi l'entraînement intensif, en l'occurrence ?
Ben, j'ai travaillé avec un scénographe, mais c'est surtout délier les corps, les nœuds, si vous voulez. Les acteurs sont tordus. Et donc, il s'agit de détordre les corps avant de commencer à répéter. Bon, mais ça vient de mes entraînements de kung-fu, où il faut d'abord se laver de tout le mauvais air de la veille. Ça passe par de la sueur, de la respiration. Et après, on boit de l'eau, et après, on commence à répéter. Voilà. Je pense que c'est une vision un peu orientale du théâtre. J'ai été très exigeant vis-à-vis des comédiens. J'allais dire de mes comédiens, mais il faut que je retire ça de mon langage.
Vous n'aimez pas être propriétaire ?
Non, non, non. Et aussi, la chose, c'est que, je reviens sur les prisons, c'est que j'ai voulu confronter mes acteurs, les acteurs, j'ai voulu les confronter à des détenus. Il se trouve qu'à la maison d'arrêt de Nice, il y a 30% des détenus qui sont des haragas, des migrants. Et donc, j'ai voulu vraiment être en face des protagonistes, quoi. Et ils étaient morts de rire. Et là, ça nous a légitimés.
Contrairement à certains directeurs de théâtre subventionnés.
Mais oui,
je referme
la
parenthèse.
Non, mais c'est normal. Mais c'est normal. Ce sont des gens qui vivent en dehors de toute proximité avec la précarité. Donc, ils ne peuvent pas rire et comprendre l'humour de la précarité. C'est un humour, moi j'ai grandi dedans, ma grand-mère, elle me sortait des blagues de l'Union soviétique. C'est l'humour des pauvres.
Voyez, Jean Dunant, je sais les mots de votre tribune, ma musette en vos gorges. Les poèmes de Varek, des digues et des molles, des brisants en fracas, des nœuds de cabestan. En vérité, je vous le dis, c'est dans le corail de sa voix à la mer que tout ça se raconte.
Quel est le mot de la langue française que vous préférez ?
Oh, quand j'étais évidemment anticonstitutionnellement.
Vous avez une âme d'enfant, Ovnatan, je sens bien. Avec Aziz Chouaki, on est dans quelle langue alors ?
Alors, c'est là où c'est un grand auteur, pour moi, c'est qu'on est dans la sienne et en même temps dans l'imaginaire collectif. On est dans l'érudition des bistrots de périphérie de grandes villes. C'est la communion de la très grande langue française et du très très populaire du bouge.
Oui, après ça,
ouais.
Disons, ok, un dollar par jour.
Ouais, $1.
Hey, tu fais quoi avec un dollar par jour ? Des clopes et une baguette ?
Ouais.
Eh ben c'est ça mon ami le Niger. Ouais, 60% parfaitement de la population.
Ouais.
En plus, vite dit le Niger, parce que sorti de Niamey, c'est le 11e siècle. L'électricité, le gaz, très vite tout.
Ouais.
Ah, ça rate. Ça râle. En Oussa, en Tamachek, en Arabe, en Peul, en Kanouri, en Soray, ça râle. Peuvent pas vivre avec un dollar par jour. Peuvent pas, hein. Et alors, en haut, ils disent quoi?
Ah,
tu crois pas? Ils disent, ok, on est cool, on va vous lâcher 2 dollars par jour. Ça vous va? On est gentil, hein. Bande d'enculés d'ingrats, de jamais contents.
Hey, chut. Ça capte, Lampedusa, 31 degrés, 29, 12, 36, Est. Ok, super, ça capte, les gars, super.
Ouais, on était vachement travers, alors faut barrer à gauche.
Ah ben non, à droite.
À gauche, j'ai fait mon service militaire. On a vu longitude, latitude.
Ouais, mon cul, t'as vu? J'étais flic, moi, avant 8 ans de service, Toto. 2 jambes, la facture, un attentat. Pour protéger qui? Des connards comme toi qui font chier.
Ex-chanson majeur d'Espéranza, mise en scène par notre invité qui connaît évidemment le texte par cœur, Ovnatan Avedikian. Est-ce qu'au fond, l'histoire d'Espéranza, c'est pas celle des migrants, mais celle du langage?
Oui, Esperanto.
Par exemple. Et est-ce que c'est pas la difficulté, justement?
Ah bah bien sûr, mais moi c'est comme ça que j'ai démarré avec Aziz Chouaki, par le langage. Parce qu'il peut parler de ce qu'il veut, moi j'ai lu tout ce qu'il écrit, je le lis de toute façon. Il écrit, Zoltan, ça se passe en Bosnie, je sais pas où, c'est pas le problème. Le problème, c'est d'où il part, son langage. Mais il a écrit des romans, et en fait, j'ai été vraiment bouleversé par ses romans. Notamment par Aigle, mais aussi par Arrobas, évidemment par L'Étoile d'Alger. Et c'est dans ses romans que j'ai découvert vraiment sa force d'écriture, qui est assez indescriptible en réalité, parce qu'il parle des sujets qui me touchent le plus, c'est-à-dire comment on peut être honnête quand on est pauvre ? C'est ça la vraie question. C'est facile d'accuser des gens d'être des voleurs.
Mais pour rester une seconde sur cette langue, c'est une langue à la fois, vous le disiez un peu, extrêmement d'hier et extrêmement d'aujourd'hui, très bagnodée et en même temps pleine de gros mots, ce qui peut d'ailleurs déranger. Hein. Est-ce que vous diriez, mais c'est ce que j'avais l'impression de lire dans votre dossier de presse, Nathan, que c'est une langue générationnelle ou qui doit être montée par une génération, la vôtre en l'occurrence?
Et justement, c'est qu'il est transgénérationnel. Enfin, moi, j'ai bien vu hein, avec les jeunes de 20 ans, et puis j'ai vu avec les lycéens comment ça résonne à fond. Quoi. Un jour, j'avais fait lire le texte à Oxmo Puccino, par exemple.
Rappeur.
Le rappeur, ouais, que tout le monde connaît. Enfin, il n'en revenait pas, je crois. Il m'a dit c'est incroyable. Ove, il m'appelle Ove. Mais voilà, aussi, il y a un problème d'éducation sur les auteurs à l'école. Je pense qu'on n'apprend pas assez aux gens ce que c'est qu'un auteur réellement. C'est un métier aussi très important dans la société, c'est une hygiène presque sociétale.
Que vous évoque 40 ans, 3 mois et 7 jours?
Bien, ça a failli être le titre de la deuxième pièce que je présente à Avignon, qui s'appelle maintenant « Baie des anges ».
Donc un texte de Serge Valetti.
Oui, mais en fait, à la base, c'est quand je jouais ce fameux off-show dont on parlait tout à l'heure, à la sortie, un jour, il y a un producteur qui est venu vers moi... Vraiment un producteur comme on les imagine dans les années 50, bien habillé, costaud, avec, limite avec un cigare, comme ça, avec un accent iranien. Il m'a dit, écoute, toi et moi, eh ben, on va travailler ensemble. Et voilà, c'est bon, c'est plié, c'est fini. Demain, on se voit, je te vais signer le contrat. Tu vas monter une pièce que tu vas commander à un auteur et tu vas jouer dedans. Il a voulu, d'un coup, en me rencontrant, comme ça, monter une pièce pour rendre hommage à un de ses amis défunts.
Alors, que dire de la langue de Valetti? Est-ce qu'on peut l'entendre par cœur? Parce que vous êtes un parcœuriste, apparemment.
40 ans, 3 mois et 7 jours, il ne voulait pas vivre une heure de plus. Il comptait les jours, les voyait s'entasser les uns après les autres. Et approchait le moment, son moment. À chaque fois, il me disait... Ça y est, ça s'approche, Gérard, ça s'approche. C'est une nostalgie future, ce spectacle. En fait, Valetti a écrit une pièce en spirale. C'est-à-dire que, au lieu d'écrire l'histoire de l'ami du producteur, il a inclus le producteur dans l'écriture et il m'a inclus moi aussi dans l'écriture. Et c'est l'histoire d'un producteur, alors pas d'un producteur, d'un homme un peu étrange qui s'appelle Gérard, et qui veut essayer de monter un spectacle. Mais il n'arrive pas à cracher le morceau. Il ne dit pas pourquoi il veut monter ce spectacle. Et donc, il convoque un jeune acteur et puis une jeune comédienne. Et puis, ils essayent ensemble de créer une pièce dont le sujet n'existe pas. Et donc, ça crée des tensions immédiates sur le plateau.
C'est du théâtre dans du théâtre.
C'est du théâtre dans du théâtre. Plus la narration se délie, plus l'histoire devient claire, plus la leur personnelle se floute. Mmh. Et c'est ce sablier... qu'on retourne comme ça,
le basculement,
et que je prends beaucoup de plaisir à mettre en scène. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que Gérard, donc le personnage principal, en scène, joué par David Ayala, remarquable, hein, il met en scène un spectacle qui est ridicule et qui, en même temps, est touchant et naïf. Mmh. Et comme je ne suis pas un grand metteur en scène, donc c'est bien pour moi de faire du théâtre ridicule.
Warum gehen zwei Engel neben Franz und was ist das für ein Kinderspiel? Wo gehen Engel neben einem Menschen? Zwei Engel am Alexanderplatz in Berlin 1928 neben einem ehemaligen Totschläger, jetzigen Einbrecher und Zuhälter. Tja, diese Geschichte von Franz Lieberkopf und seinem schweren, wahren und auffällenden Dasein ist nun so weit vorgeschritten.
Der Feind ist der Beobachter!
B, komm! Boîte à outils.
Des choses étranges dans votre boîte à outils, Nathan Avedikian, comme ce film de Fassbinder, film fleuve, hein, de 15 heures, d'après un roman. Peut-être l'allégorie de l'Allemagne nazie, je ne sais pas. Pourquoi en particulier le générique de ce film?
J'ai besoin de sensualité. Et Fassbinder est un homme éminemment sensuel et éminemment violent. Donc ces deux choses combinées, pour moi, ça me rentre dedans, comme si le train qu'on entend là m'écrasait, quoi. Évidemment, ça fait partie aussi des films que j'ai regardés seul, j'ai eu une très grande période de solitude. Bon, on va pas pleurer, hein. Mais c'est là qu'on forge aussi des muscles qu'on peut pas muscler quand on est entouré, que tout va bien.
On vous a laissé avec Tex Avery tout à l'heure, et là on vous retrouve avec Fassbinder. Votre imaginaire théâtral, il est peut-être aussi dispersé que votre arbre généalogique. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, avec Irina Brook, l'une des premières expériences s'est appelée Odyssée. J'aimerais bien savoir.
Et l'Odyssée, donc, c'était à partir de l'Odyssée d'Homère. Il fallait raconter pour les Jones l'Odyssée, mais version un peu hip-hop et version un peu racailleuse. Et ça a fait un tabac, parce que si vous voulez, les jeunes des quartiers, quand ils viennent au théâtre et qu'ils voient qu'il y a des gens sur scène qui peuvent parler comme ça, bouger comme ça, ils sont fascinés. Ils disent, c'est ça, monsieur le théâtre, pour eux.
Parler comme ça, c'est-à-dire?
C'est-à-dire avoir ne pas avoir une emphase théâtrale, vous voyez. Ou même, les gens, ils jouent Tchekhov, ils disent, bonjour, Vladimir Vassilievitch. C'est ridicule. On se retrouve devant une théâtralité qui est morte, des gens qui claquent des talons. On peut jouer Shakespeare, on peut jouer Tchekhov sans être aussi endormi quand même, c'est possible. Je veux dire, c'est quand même de la tragédie, les gens sont imbibés de vodka dans Tchekhov.
Je vous rêverais bien en critique théâtre, moi, tiens. Alors, vous aimez ou vous n'aimez pas? Je vous dis des mots et puis vous me dites. Cuisiner.
J'aime, beaucoup. Je like 4 fois. Je cuisine, ça me lave la tête, ça me détend la tête, c'est important, tous les odeurs, le rapport, parce que j'ai un rapport à la sculpture aussi. Et donc j'ai besoin de comprendre, d'additionner les saveurs, les choses. C'est de la mise en scène et voilà.
Hôtel du Nord.
Hôtel du Nord, j'aime énormément les acteurs et les dialogues. Et je n'aime pas trop la réalisation.
Vous ne l'auriez pas filmé comme ça, quoi.
Non, c'est pas ça. C'est un peu niais, la réalisation. Par contre, Louis Jouvet et Arletty, c'est incisif, c'est intemporel, transgénérationnel.
Les autres.
Oh, les autres. Quand j'étais plus jeune, je m'amusais à dire c'est l'enfer. Mais non,
vous
les
avez
autres.
Dit aussi on aime ce qui vous dégoûte.
Oui, dans le off-show, mais on est attiré par ce qui nous dégoûte. Oh, je sais pas. Il y a une morale dans tout ça et la morale, ça me fatigue beaucoup.
Tbilissi.
Tbilissi, c'est la capitale de la Géorgie, Tiflis. Et c'est une ville dont je suis tombé amoureux. Vraiment, j'aime pas les villes. Hein. C'est vraiment les villes, ça m'intéresse pas. C'est du goudron, c'est du pétrole. Tout est en pétrole. Les gens portent des doudounes en pétrole. Ils ont des baskets en pétrole. Ils marchent sur des sols en pétrole. Ils rentrent dans des Fnac en pétrole, des disques en pétrole.
En même temps, c'est une BD la vie avec vous.
Je veux dire, moi, je veux tout tester. Donc, je prends un briquet et puis je regarde comment ça réagit. C'est une catastrophe. Mmh. Je préfère comment réagit le bois quand même. Hein. Le bois, le cuir, c'est quand même des matières qui m'intéressent plus. Quoi. Donc, Tbilissi, c'est une ville où j'ai retrouvé une saveur, une odeur, un charme. Et je suis tombé amoureux de cette ville. Puis c'est aussi une ville qui a été, pendant 100 ans, les maires ont été arméniens. Donc il y a une communauté arménienne qui est implantée dans cette ville. Et il y a une arménité qui est proche de la mienne, plus que celle des Arméniens d'Arménie, qui sont des Arméniens du Caucase. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué. Mais...
Ça me permet cette transition, merci Ovnatan Avedikian. Au moment du centenaire du génocide arménien, vous avez souhaité, donc il y a 2 ans, interroger ce que vous avez appelé le noir mystère en montant le cercle de l'ombre. Alors qu'est-ce que c'est déjà que le noir mystère? Et puis surtout, comment l'Arménien de la 4e génération a imaginé ce noir mystère sur le plateau?
Eh bien, on grandit avec cette histoire quand on est d'origine arménienne. Donc généralement, dans les familles, on a la haine du Turc. Bon, j'ai la chance d'être issu d'une famille qui a fait un travail et qui est sortie de ce manichéisme, on va dire. Il n'empêche que je me suis retrouvé à 18 ans ne pouvant absolument pas expliquer ce qu'était le génocide arménien. C'est-à-dire, oui, alors qui a massacré qui? Oui, mais c'est des Turcs qui ont massacré les Arméniens. Ça suffit pas. Les gens, souvent, ils me demandent, mais le génocide arménien a eu lieu en Arménie? Non, non, pas en Arménie. Ah bon, mais en Turquie? Non, non, pas en Turquie. Ah bon, mais où? Bah, dans l'Empire Ottoman. Donc on va essayer de réexpliquer ce que c'est que l'Empire Ottoman, ce que ça a été, et puis le démantèlement de l'Empire Ottoman. Et j'ai lu un livre de Franz Werfel qui s'appelle Les 40 jours du Moussadag. Et dans Les 40 jours du Moussadag, il raconte l'histoire de Johannes Lepsius, qui était un pasteur qui a essayé d'endiguer les déportations pendant le génocide en 1915. Et je me suis pris un choc littéraire, parce que c'est un grand auteur, même si c'était de la traduction. Et j'ai réussi à comprendre dans ce livre, géopolitiquement, le génocide arménien, mais de façon ludique, parce que c'était un personnage attachant, ce Johannes Lepsius, qui a vraiment existé. Et ben, je me suis mis à écrire une pièce sur ce personnage à partir du roman. C'était initiatique pour moi. Mmh. C'est un sujet sur lequel je rebondirai plus tard, parce que c'est un spectacle que je voudrais reprendre sur le plateau dans ce sens-là.
Une dernière question. Victor, ce cher Hugo, disait « Le théâtre doit faire de la pensée le pain de foule. Le théâtre est une tribune. » Le théâtre, selon Ovnatan Avedikian, en un mot, c'est quoi ?
Oh, c'est ça, hein, c'est ce qu'il a dit. Je ne peux pas m'exprimer mieux que le plus grand auteur français.
Je suis déçu.
Oh, mais le théâtre, pour moi, c'est la communion, le fait que c'est une hygiène, ce que je disais tout à l'heure, c'est obligatoire. Je veux dire, c'est quand même dingue s'il n'y a pas de théâtre dans une société. Mais le théâtre tel qu'il est, dans les salles enfermées dans le noir, avec des bistrots, avec du vin pas bon et trois cacahuètes à manger à la fin, ça ne m'intéresse pas. Le théâtre, c'est avant, pendant et après le spectacle. Enfin, voilà, ouais. On ne va pas tout reprendre, mais je veux dire, très important le théâtre.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet en sol majeur consacré à Ovnatan Avedikian, une date urgente à retenir dans votre agenda, Europa Esperanza d'Aziz Chouaki, avec la présence de 10 personnages incarnés par un seul, Ovnatan Avedikian. C'est du 12 au 30 septembre au Lavoir moderne parisien, à Paris bien sûr. Et en longeant les quais, on pourrait bien tomber sur un certain hôtel du Nord, qui sait. Et si on se taisait en sol majeur, en écoutant Théo de Miles Davis ?
Je tasse l'anglais, j'apprends la photographie. Patience.
Patience quoi ? Patience qui ?
Patience, regarde.
Moi, pour être photographe, même ambulant, il faut une licence. Pour l'obtenir, il faudra une tutelle de bonheur.
Tu me réveilleras.
Edmond, tu m'aimes donc plus que tu veux travailler ?
Je veux gagner mon bifteck moi-même. Chacun ses goûts.
Oui, ben moi, je ne serai jamais la maîtresse d'un photographe.
Ça commence à sentir mauvais pour moi ici. Il y a des signes qui ne trompent pas.
Tu veux te planquer ?
Je veux changer d'air. Ma vie n'est pas une existence.
Ah, si tu crois que mon existence, c'est une vie ?
Ça va décidément mieux, ta gorge.
J'ai compris. Pas besoin d'interprète.
Hein ?
Tu veux que je descende ? Tu sors pas d'ici ?
Je t'attends.
La gueule, ça va ?
Ça va.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et puis derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, le trio revient pour de vrai. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve ce samedi au Cameroun avec le comédien Gérard Essomba. À demain.